Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour vous parler de l'histoire du porc et comment nous, dans cette industrie, avons pu faire progresser la mise en œuvre du code. Jackie a parlé de la meilleure façon d'améliorer les soins à la ferme, c'est-à-dire par le partage de l'information, mais cela n'est qu'une partie de l'histoire. Cela ne nous aide pas d'écrire ce qui se passe sur le terrain. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on a fait dans l'industrie porcine et savoir un programme d'évaluation. Jackie vous a parlé de la nouvelle approche pour les codes de meilleures pratiques au Canada, qui se fait sous l'égide du Conseil national de soins aux animaux d'élevage, et nous travaillons à une approche commune pour les outils d'évaluation. Ça, ce serait très enthousiasmant pour nous de faire ça comme communauté agricole pour faire en sorte que nos codes soient beaucoup plus crédibles. La situation dans l'industrie porcine, comme plusieurs produits, c'est que nous avons un code de pratique. Il date de 1984 et avec révision en 1993, donc un petit peu vétuste sur les bords. Nous avons décidé d'aller de l'avant et quand même d'élaborer un outil d'évaluation avant de réviser le code. Alors, nous avons préparé cet outil d'évaluation en 2005. Nous sommes aussi en cours de révision du code avec le nouveau processus que Jackie a décrit. On l'a lancé en décembre. On s'attend de le terminer au cours de l'année 2013. Ce qui nous exigera de nous, bien sûr, une révision de notre outil d'évaluation. Donc, on est en avance dans un sens parce qu'on a déjà l'outil d'évaluation, mais de notre côté, on est en arrière parce que notre outil d'évaluation est basé sur un code vétuste, désuet. Alors, pourquoi est-ce qu'on a quand même été de l'avant avec l'élaboration d'un outil d'évaluation? Sans mettre le code à jour, c'est à cause de l'environnement dans lequel on se trouvait il y a 10 ans. Quand j'ai préparé mon exposé, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans exactement qu'il est arrivé plusieurs événements dans le secteur porcin qui nous ont incités à développer cet outil d'évaluation. Il y a 10 ans, l'Union européenne a banni les stalles pour les truies pendant une certaine période de leur vie. Et ça, c'était un règlement chez eux. Ils avaient aussi d'autres règlements touchant la vie de ces animaux. L'État n'a pas saisi. En même temps, les États-Unis apportaient aussi beaucoup de changements. C'est là que on s'occupait des questions de soins des apinaux et l'Institut de mise en marché des aliments et autres, les restaurants. Dit, abordons la question des soins des animaux dans l'ensemble des vendeurs d'aliments. Et aussi, il y a eu beaucoup de pression de la part d'activistes qui ont exigé ces réponses, soit des réponses réglementaires ou des réponses du marché lui-même. Donc, en novembre 2001, nous avons tenu un atelier pour voir tout ce qui se passait et on a débuté avec une analyse de la conjoncture de l'environnement et voir quelles pouvaient être les réponses à la pression. Alors, il y avait une approche réglementaire au Royaume-Uni, comme on a vu, et dans les États-Unis, c'était des approches de marché concernant les différents segments de l'industrie. Ils voulaient prendre le contrôle et dire, voilà, voici ces pressions que nous vivons, il faut réagir. Donc, nous sommes assis, nous avons dit, que devons-nous faire ici, nous? Et le premier choix a été de réviser le code. Bien sûr, il était vétuste, désuet plutôt, et donc révisons-le. Mais quand on regardait cette solution, on a dit, ça ne nous donnera rien. Et en discutant, on s'est dit, non, pas vraiment, parce que nous ne savons même pas qui s'en sert, on ne sait pas combien de producteurs s'en servent, quelle partie du code ils respectent, et nous ne pouvons pas en parler. On peut simplement, bien sûr, pendant de nombreuses années, cela a fonctionné. Tout ce qu'on avait besoin de dire, c'est « on a un code », et ça mettait fin à la discussion. Mais ce n'était plus le cas. Nous savions que nous avions besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui pouvait être soumis à une vérification. Alors, plutôt que de prendre 3 ans, la période nécessaire pour réviser le code, on a pris ces années-là pour élaborer un outil d'évaluation. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est de monter une équipe. On voulait que ce soit crédible. Donc, même si c'était le conseil du porc qui lançait la chose, on représentait les producteurs, on a dit nous voulons pour défendre le processus et donc l'élargir. On avait donc des producteurs, on avait aussi des chercheurs impliqués dans le monde du bien-être des animaux ainsi que des représentants du gouvernement. Ensuite, on s'est dit, bien, comment faire? Encore une fois, on a regardé ce que d'autres groupes faisaient et il n'y avait pas d'approche normalisée à l'élaboration d'une évaluation des soins aux animaux, un outil d'évaluation. Alors, on a dit, mais qu'est-ce que nous savons? À ce moment-là, on savait, on connaissait HACCP, le fameux HACCP ou ARMPC, parce qu'on venait de développer un programme de sécurité sur la ferme. Et ça, c'était très, très bien parce que c'était basé sur HACCP, comme on l'appelle au ARMPC. On regarde tout ce qu'il y a dans la ferme, il fallait regarder les étapes de production et on se demandait comment ces choses-là pouvaient affecter la sécurité. La sécurité alimentaire, c'est beaucoup plus tranché que les soins aux animaux et on voulait que notre processus soit crédible. Mais c'était très difficile d'utiliser une approche de ces points critiques-là pour le soin aux animaux. Alors, il y a beaucoup d'émotions dans la question des soins aux animaux, ainsi que beaucoup de préjugés chez les gens autour de la table, ce qui n'est pas le cas pour la sécurité alimentaire. Donc, les gens autour de la table étaient résistants à ce qu'on leur disait, « Hey, tu sais pas ce que tu fais à la ferme. » Et les chercheurs, qui avaient de l'information assez intéressante, mais qui n'étaient peut-être pas pratiques, alors, il fallait rassembler tout ce beau monde et élaborer un outil d'évaluation qui était censé. Alors, on dit que c'est basé sur le ARMPC, mais c'est dans un sens large qu'on dit cela. On regarde ce qui rentre dans la ferme, ce qui se produit sur la ferme, dans le sens de choses qui pouvaient avoir une incidence sur le bien-être des animaux. Et on a inventer l'expression de point de contrôle des soins des animaux. Si quelque chose allait affecter l'animal, il fallait avoir un contrôle là-dessus et ce mécanisme de contrôle qui était important. Quand on a terminé notre outil, on a fait des projets pilotes, on a fait évaluer par d'autres parties prenantes en industrie et comme résultat, on a ce qu'on appelle le BEA. Le bien-être animal, le programme de bien-être animal qui a trois sortes de mesures, celles basées sur les axées sur les animaux, celles axées sur l'environnement et les mesures axées sur le processus. Il y a des questions de chacun par rapport à ce que fait l'animal. Donc, les notations corporelles, là, est-ce que ça a l'air d'un animal sain? Les méthodes basées sur l'environnement, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? Bon, par exemple, les planchers anti-glissants. Est-ce qu'il y a une espèce d'infirmerie pour les animaux et aussi les processus? Bon, un plan d'urgence, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de ces choses-là. Et il semble aussi y avoir des mesures en Europe qui sont basées seulement sur l'animal. C'est tout ce qu'il faut regarder. Mais moi, je pense que le jury, que la décision finale n'est pas rendue. Quand nous l'avons préparé, il nous semblait que chacune de ces sortes de mesures était utile. Et je pense encore aujourd'hui que c'est la bonne façon de faire. Quand quelqu'un vient à la ferme pour regarder ce que vous faites, il y a des choses qu'ils ont besoin de voir qui ne se produiront pas sur le champ de venture. Par exemple, vous espérez qu'il n'y ait pas une panne électrique quand le vérificateur vient, mais avez-vous un plan d'urgence? Alors, est-ce que c'est censé que la gestion de la ferme passe partie d'un outil d'évaluation? Oui. Alors, je pense que la même chose est vraie pour les mesures axées sur l'environnement. Avez-vous une stalle réservée pour les sujets malades? Bon, c'est une mesure axée sur l'environnement et c'est censé, me semble-t-il, d'évaluer en tenant compte de cela. Bon, nous avons donc monté notre programme d'évaluation du bien-être des animaux en utilisant ce module à partir de normes fixées. Alors, on a un petit livret qui a une liste de questions. Certains sont en grisé. C'est des exigences. Il faut faire cela pour respecter le programme. Et on a des questions qui sont non grisées. C'est pas obligatoire, mais c'est des pratiques recommandées. C'est comme ça qu'on l'a monté et c'est en parallèle avec la façon qu'on a monté le programme de sécurité alimentaire. Donc, c'est un jeu d'exigences qui doivent être satisfaites. Si vous ne les satisfaisez pas, vous ne participez pas au programme. Vous n'êtes pas considéré comme participant au programme. Bon. Il y a d'autres approches aussi qui pourraient être utilisées. que des groupes qui montent des programmes d'évaluation doivent tenir la ligne de compte, par exemple, la façon de donner des notes. Par exemple, si vous avez une note supérieure à X, 70 % par exemple, vous êtes accepté au programme. Vous avez peut-être une situation, certaines questions, une pondération sont considérées plus importantes que d'autres. De la sorte, bon, qu'on a un système d'évaluation comme cela. Vous pouvez n'évaluer qu'un petit jeu d'exigence, de sorte que l'évaluation se fasse rapidement. Trois critères, par exemple. Nous avons fait une évaluation plus large où tout ce que nous croyons être d'importance capitale fait partie. Nous avons donc un programme avec 61 questions, dont 25 sont des exigences de programme, en grisé. Maintenant, on a un programme, il faut donc le mettre en œuvre et la prestation du programme, bien sûr, est aussi importante, sinon plus, que son contenu. Et ça a été peut-être un peu plus facile pour nous parce qu'on a déjà le système de sécurité en place et on voulait simplement utiliser le même système de prestation de programme. Alors, on l'a donc structuré de la même façon et on avait un système national, donc on a des normes nationales, un seul programme uniforme. Des matériels didactiques nationaux utilisés pour la formation des producteurs et de ce qu'on appelle les validateurs ou évaluateurs. On emploie ce terme-là dans le problème de sécurité, parce que les gens n'aiment pas le mot « vérificateur ». On pensait qu'il y aurait beaucoup de résistance de la part des producteurs au lieu d'envoyer un vérificateur. Ça semblait un vérificateur d'impôts. Donc, on emploie le mot « validateur » qu'on a gardé. C'est peut-être seulement bon chez nous, l'industrie porcine. C'est la personne qui va, une personne indépendante extérieure, qui va là pour s'assurer que les normes du programme sont satisfaites. Il visite la porcherie, mesure ce qui se passe, compare cela au programme et examine la documentation annexe. Voici une histoire que j'aime raconter quand on a fait le programme de sécurité lancé en 1998. Pendant les années avant, on n'avait pas de programme sur la ferme, aucune. Et le président du Conseil canadien du porc, dirigeait aussi le comité de sécurité. Et il a dit, il n'y a aucune façon que quelqu'un va venir chez moi, rentrer dans ma porcherie et regarder ce que je fais là. Non, ça ne se fera pas. Ils peuvent examiner mes documents, mais c'est tout. Mais à la fin du développement du programme de sécurité alimentaire, ça a été le plus grand promoteur du besoin d'un examen extérieur fait dans la porcherie dans la grange, parce que c'est la seule façon dans l'étable de voir ce qui se passait. Alors, voilà comment nos programmes sont structurés. Il y a des protocoles nationaux de vérification, comment s'inscrire au programme, comment la validation se fait. Ces critères sont nationaux. Et il y a aussi une surveillance nationale avec une vérification interne. À cause de notre structure, bon, c'est un gros pays ici, hein? 10 millions de kilomètres carrés et la prestation se fait dans chaque province où il y a quelqu'un de responsable pour la prestation du programme auprès des producteurs, comme pour le programme de sécurité. Ça, c'est parce que le personnel et les ressources sont au niveau local. Donc, prestation provinciale, matériel national. Le BAE a été lancé en 2005 avec la version préliminaire et en 2006 la version finale. Quelques mots pour expliquer pourquoi nous avons choisi l'approche évaluation pour la mise en œuvre. De la sorte, la raison principale, c'est que ça va au-delà de la diffusion de l'information ou l'éducation. C'est une façon de vérifier ce qui se passe sur le terrain. Toutes les fermes sont visitées s'ils sont inscrits au programme. Un validateur s'est pointé et s'assure que vous satisfaisez les exigences du programme. Moi, je vous dirais que cela fournit aussi une meilleure supervision qu'une approche réglementaire parce qu'on visite toutes les fermes. Bon, je ne connais pas de règlement qui s'applique aux fermes porcines qui exige une visite de chaque ferme. C'est un échantillon ou bien c'est un événement qui déclenche une inspection, mais il n'y a pas de mesure réglementaire qui existe, qui exige une visite à chaque ferme porcine. Et ça, je pense que c'est la force de nos programmes de l'industrie. On visite chaque ferme. L'autre élément clé, c'est que c'est que vous avez déjà établi que vous satisfaisiez aux normes. Ça, c'était un des principes de directeur pour l'élaboration du programme d'évaluation. Le producteur de l'Ottawa nous dit on a besoin de savoir que toutes les fermes satisfont ces exigences. On ne peut pas se permettre l'abus, la cruauté des animaux, que ces normes ne sont pas satisfaites. On ne peut pas se le permettre. Ça, ça a été le critère adopté au sein de l'industrie. Nous croyons aussi qu'en développant un programme national, cela a empêché la prolifération de programmes disparates. Je suis convaincu que si nous ne l'avions pas fait, nous, au sein du Conseil du privé, les transformateurs auraient développé leur programme qui aurait été différent. Les producteurs auraient peut-être dû faire face à plusieurs programmes différents. Donc, plusieurs critères, différents soins aux animaux. Ici, tout est uniforme. Et finalement, ça permet à l'industrie de parler d'une voix confiante. On peut dire, oui, on a un code, mais non seulement un code, on sait ce que les producteurs font sur la ferme. Et notre industrie est orientée à l'exportation, hein? Et donc, on en parle à nos marchés d'exportation. Et cela inspire confiance chez nos acheteurs quand on peut leur dire, « Hey, ça se fait sur les fermes, ça. » Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de défi, hein? La liste de ces défis est assez longue. Si vous travaillez dans le domaine, vous savez qu'on vit ce qu'on appelle la fatigue du programme. J'ai été impliqué dans le programme de sécurité, très enthousiasmant, le premier programme lancé, etc. Les producteurs voulaient bien entreprendre un nouveau programme comme cela. Mais maintenant, ils savent ce que c'est qu'un programme sur la ferme. C'est du travail additionnel, de la paperasse, des dossiers, ça coûte de l'argent, il y a des visites de gens, etc. Donc, il y a la sécurité, la salubrité, il y a les évaluations environnementales faites par la province, la traçabilité, là, la biosécurité et maintenant le bien-être des animaux. Beaucoup de choses qu'on exige des producteurs. Ces coûts additionnels sont là et même simplement la supervision et la validation sur la ferme, la validation pour le bien-être en même temps que la sécurité alimentaire, mais ça prend un temps additionnel. Il y a aussi des fardeaux administratifs exigés des associations provinciales et fédérales. Et dans certains cas, il y aurait des coûts de production pour mettre en œuvre les éléments nécessaires pour satisfaire aux exigences du programme. Et les avantages financiers ne sont pas garantis. Dans l'industrie porcelaine, les producteurs qui disent bon, donne-nous une pièce ou plus par tête de cochon. Non, ça ne se fera pas. Oubliez ça. Il n'y a pas de récompense financière pour la mise en œuvre de ces éléments de programme. Et c'est très difficile de mesurer les améliorations sur la ferme. Mais je vais vous dire, moi, que l'une des faiblesses que nous avons fait, et on l'a fait deux fois, donc salubrité alimentaire et soins des animaux, c'est que nous n'avons pas fait de recherche de base pour dire voici où en est l'industrie en ce moment. Et ensuite, de le répéter dans le temps pour montrer les améliorations suite à la mise en œuvre du programme. Et je pense que cela, Lucien, nous fait. Donc, si vous avez l'argent pour le faire et vous lancez le programme, essayez de le faire parce que cela sera une récompense pour votre producteur, dans le sens que vous les convainquez du bienfait du programme. Idéalement, il faudrait le faire au niveau national, dans toute l'industrie, mais aussi sur la ferme. Quel changement fait par le producteur amène une amélioration d'efficacité dans la gestion de leur entreprise et aussi contribuer à l'amélioration du bien-être des animaux. Mais ce qui se passe dans une situation pratique, c'est que la plupart d'entre nous, les associations nationales, on est des petits groupes en fin de compte, et même développer de tels programmes, c'est pas mal gros comme fardeau, et on n'a absolument pas les ressources ajouter de la recherche sur la situation de base. Mais si je devais recommencer, j'essaie de montrer un meilleur effort pour essayer d'avoir l'argent pour faire une de ces analyses de la situation de base au niveau de l'industrie et au niveau de la ferme pour que je puisse pouvoir démontrer par la suite les avantages du programme. Les soins des animaux apportent des bénéfices à la société, mais c'est difficile à mesurer. Nous encourageons les producteurs à s'inscrire au programme parce que c'est la chose à faire. Comme ça, on fait valoir aux gens que nous répondons aux préoccupations des consommateurs sur l'élevage des animaux. comment démontrer l'avantage d'un programme parce que quelque chose n'est pas arrivé. On ne peut rien prouver par des négatifs. Hein? On ne peut pas prouver quelque chose comme cela, mais c'est peut-être un des meilleurs avantages. On peut dire aux gens quelle a été la façon de faire. Et il y a aussi la question de la conscientisation des parties prenantes. Comment parler à nos clients, par exemple, au sujet de ce qu'on fait sur la ferme? Quand je parle de clients, il y a, bon, les détaillants et les restaurateurs et autres, les gens qui, les transformateurs et le grand public consommateur de porc. Comment leur expliquer ce qu'on fait à la ferme en matière de soins et de bien-être des animaux? Bon, où en sommes-nous? Je vous dirais que nous avons introduit le programme à un moment fort peu opportun. Ça a été lancé en 2005, ou 2006, disons, que c'était le programme. Et en l'automne de 2006, les producteurs ont commencé à perdre de l'argent. Et il y a eu une période sans précédent de perte au sein de l'industrie du porc. Et la dernière chose que les gens voulaient faire, c'est se lancer dans un nouveau programme. Un nouveau programme qui était là pour les aider à démontrer des choses qu'ils faisaient déjà. C'est difficile de les convaincre d'embarquer dans le nouveau programme. Quand le pire de la crise a été passé, notre conseil d'administration a dit nous devons continuer à montrer notre dévouement aux soins des animaux de façon publique. Et ils ont donc décidé de lier le programme du soin des animaux à un programme de salubrité ou de sécurité alimentaire. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est que le programme de salubrité est une condition de vente aux transformateurs au Canada. Et quand on les lit, on dit, si tu fais la salubrité, il faut que tu fasses l'autre, et c'est une assurance additionnelle. Donc, à partir du 1er janvier 2012, les deux programmes sont liés. Et vous devez satisfaire toutes les exigences des deux. Et même du côté production, il y a une certaine hésitation, mais finalement, on a dit, le programme est là depuis assez longtemps, on aurait dû avoir un meilleur taux de participation, mais à cause de l'état de l'industrie, ça ne s'est pas produit. Donc, on se donne un coup de pied là, en liant les deux programmes. Pour votre gouverne, notre programme de salubrité à l'intérieur du programme de soins des animaux sont volontaires. Je mets un point d'interrogation là parce que si vous demandez à un producteur si notre programme de salubrité à l'intérieur est volontaire, ils disent non parce que c'est une condition de vente. Alors, plus de 90 % des cochons produits au Canada sont sur une ferme. Elles sont sur une ferme où il y a le programme. Et à mesure qu'on a parié les deux, on lit les deux programmes, on va avoir plus de gens participant au programme de bien-être des animaux.
So we,
on a un outil d'évaluation, mais on n'a pas mis le code à date. Bon. Et c'est une question d'aborder la question la plus importante pour l'industrie à l'époque pour montrer ce qui se passait en fait sur la ferme et pas faire un autre volet plus pédagogique. Mais maintenant qu'on a un nouveau processus d'élaboration de code, nous sommes en voie de développer notre nouvelle code de pratique. On l'a déjà lancé. Bon. Et une fois fait, nous réévaluerons notre outil d'évaluation et nous espérons que le protocole d'évaluation générale du CNSAE sera fait pour que nous l'utilisions, nous, pour réviser notre outil d'évaluation à nous. Nous appuyons beaucoup ce que fait le CNSAE, car, comme le dit Ron, c'est une approche unique que nous prenons au Canada, ce qui signifie que nous pouvons avoir confiance dans notamment les nouveaux codes qui sont faits. J'ai confiance dans le code du bœuf de boucherie parce que ça aura suivi le même processus que le nôtre. Et nous appuyons aussi le fait qu'il y ait une approche nationale et cohérente pour l'évaluation, pour l'élaboration d'outils d'évaluation, pour qu'on puisse en parler avec grande confiance. Avoir bon, le processus de code et le processus d'évaluation encadre les gens qui veulent suivre cette voie et s'assurer que les parties prenantes les plus importantes sont à la table. Ça donne une fondation de transparence et une crédibilité accrue. Nous voyons au début de toute cette question de code d'évaluation en matière de bien-être. Nous faut encore convaincre les gens de participer. Plusieurs groupes et plusieurs personnes. On a mentionné plutôt le besoin de faire la promotion de notre approche. Je pense que c'est un élément important. Nous devons continuer à promouvoir le fait qu'on a développé des codes de façon cohérente, qu'on a des programmes d'évaluation fondés sur ces codes de pratique et nous assurer que tous sont au courant de ce que nous faisons. Et en terminant, nous avons l'occasion de bien faire les choses et en ce faisant, de gagner ou de regagner la confiance du public envers les soins des animaux. Et comme Jackie l'a dit, c'est bien que nous tous nous assemblions une réunion comme celle-ci pour qu'on puisse trouver la voie vers l'avant, pour que tous puissent s'exprimer et avoir et qu'on ait confiance dans ce qu'on fait pour les soins et le bien-être des animaux d'élevage.